Le réseau des chambres de métiers et de l'artisanat, chaque jour aux côtés des artisans, présente.
Sud Radio, c'est ça la France, Nathalie Schrengerma.
Moi je n'étais rien et voilà qu'aujourd'hui, je suis le gardien du sommeil de ces nuits, je l'aime à mourir.
Bonjour à tous, bienvenue dans C'est ça la France, l'émission qui met en avant les savoir-faire, les idées ingénieuses, originales et éco-responsables. Notre émission du jour est placée sous le signe de l'amour, bien évidemment. Demain c'est la Saint-Valentin. Si vous souhaitez témoigner de votre amour de façon amusante et gourmande, briser les codes classiques, pourquoi pas essayer les biscuits, ces délicieux petit beurre avec un petit message d'amour. Tout à l'heure, on vous fera découvrir la très sympathique équipe de French Biscuit. Mais tout de suite, nous recevons Hortense qui a créé Fleurs d'ici et qui fait partie du mouvement Slow Flower. Le bouquet de fleurs est un indétrônable des fêtes et notamment lors de la Saint-Valentin. Alors pourquoi ne pas privilégier des fleurs 100% locales et de saison ?
Sud Radio, c'est ça la France, Nathalie Schrengerma.
Bonjour Hortense.
Bonjour Nathalie, bonjour à tous.
Je le disais à l'instant, la Saint-Valentin, comme la fête des mères, ce sont des pics hein, de vente pour les fleuristes. Malheureusement, il faut le dire encore, la majorité des fleurs proposées sont cultivées à des milliers de kilomètres de chez nous. Pouvez-vous nous rappeler qui sont ces pays producteurs, les principaux ?
Alors effectivement, aujourd'hui, 85% des fleurs sont produites à l'étranger, sont importées. Autrefois, c'était depuis les Pays-Bas. Et aujourd'hui, les Pays-Bas sont devenus simplement un pays, une plaque tournante en fait, du commerce des fleurs. Mais aujourd'hui, la production, elle a été délocalisée dans des pays qui sont situés sur l'équateur, c'est-à-dire la Colombie, l'Équateur pour l'Amérique du Sud et le Kenya et l'Éthiopie pour l'Afrique.
Alors, en termes de bilan carbone et écologique, faut le dire, des fleurs aussi qui sont traitées pour pouvoir voyager.
Tout à fait. Effectivement, pour pouvoir supporter les traitements qu'on leur fait subir, hein, c'est-à-dire voyager en avion, voire des fois en bateau cargo, donc elles doivent rester près d'un mois, on parle de fleurs coupées dans des containers frigorifiés. Effectivement, on doit un peu les botoxer, comme on dit, on doit les traiter de telle sorte à ce qu'elles puissent subir ce genre de choses. Et donc, par conséquent, c'est vrai qu'elles subissent des traitements avec des phytosanitaires qui sont pour la plupart même interdits par l'Union européenne.
Sur votre site, d'ailleurs, j'ai pu lire 25 roses importées produisent autant de CO2 qu'un Paris-Londres en avion.
Tout à fait.
Ouais.
En fait, on a le bilan carbone du transport, mais on a aussi le bilan carbone de la production, parce que si c'est produit sous serre chauffée, éclairée, donc même si c'est produit aux Pays-Bas où c'est plus près, mais la consommation énergétique des serres, elle est colossale.
Ouais. Et à côté de ça, on a une filière horticole et floricole qui souffre.
Et oui, parce qu'on a perdu près de 90% des horticulteurs en France. En 1972, ils étaient 30 000, il en reste à peine 3 000 aujourd'hui.
C'est dingue.
Alors même que c'est des gens qui ont un savoir-faire extraordinaire, qui évidemment, ça représente des emplois, hein, mais aussi ça représente des terres cultivées, de la biodiversité, des espèces qui disparaissent. Donc voilà,
on a un vrai risque de déclin de l'horticulture française, hein, vous venez de nous le dire avec des chiffres qui sont très parlants, et toute une multitude de savoir-faire qui disparaissent finalement.
Tout à fait. Mais c'est pas une fatalité.
Oui.
Aujourd'hui, justement, on voit bien que les choses sont un peu en train de s'inverser et que à la demande des consommateurs qui aujourd'hui sont de plus en plus attentifs à la provenance de leurs produits, qui essaient de savoir ce qui se cache derrière leurs produits de consommation quotidienne, où ça a été fait, comment, la répartition de la valeur. Et donc aujourd'hui, on voit effectivement le mouvement Slow Flower dont vous parliez en introduction qui prend de l'ampleur. C'est né un mouvement qui est né en Californie il y a une quinzaine d'années dans la suite du Slow Food, donc qui fait la promotion des produits locaux et de saison en agriculture pour notamment l'alimentaire, mais aussi sur d'autres produits, et notamment les fleurs.
Oui, vous prenez un modèle différent, vous venez de le dire. Et finalement, c'est vrai, ces Français sont de plus en plus curieux sur l'origine des fleurs, un peu comme pour l'origine de la viande, enfin des produits alimentaires. Les fleurs locales, là aussi, hein, il faut continuer à sensibiliser les Français. D'ailleurs, vous avez lancé une pétition, parce que la présidence de l'Europe est française, pour l'instant, pendant 6 mois. Donc c'est un peu l'occasion aussi, avec cette campagne présidentielle, finalement, d'aller à la rencontre des politiques et essayer d'avoir leur appui pour sauver cette horticulture française.
Oui, il y a des mesures finalement assez simples hein, à mettre en œuvre qui ne demandent pas d'investissement, qui n'ont pas de coût en fait hein, pour l'État. La première, c'est effectivement d'obliger les détaillants à indiquer la provenance, comme pour les fruits et légumes. Vous savez, quand on achète des fruits et légumes...
Exactement.
Et que ce soit en grande distribution ou chez le marchand des 4 saisons, vous avez forcément la provenance du fruit ou du légume qui est indiquée. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est faire en sorte qu'il y ait des contrôles sanitaires aux frontières pour justement pas laisser rentrer les fleurs qui ont été traitées avec ces pesticides qui sont interdits
Interdit,
aujourd'hui
oui.
en Europe. Et le troisième point, c'est de faire que l'État, c'est une grosse puissance aussi d'achat, la commande publique
Ah mais
pour
oui, vous avez
ça, c'est
raison.
un gros levier aussi pour transformer et faire en sorte de favoriser l'horticulture locale dans les commandes que l'État, les collectivités, etc. peuvent passer.
Alors, vous avez évoqué à l'instant les fruits et légumes. Vous dites, hein, une rose en hiver, c'est comme manger de la tomate en hiver. C'est une hérésie pour la planète et le portefeuille.
Ouais, c'est une faute de goût, comme on dit,
Et
dans
c'est
tous
une
les sens
faute
du
de goût.
terme, au sens propre et au sens figuré. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est une faute de goût parce que ça n'aura pas d'odeur. Enfin, voilà, comme une tomate en hiver, ça n'a pas de goût. Une rose, au mois de février, ça n'a pas d'odeur non plus parce que c'est des roses qui viennent du bout du monde, donc qui ont été traitées, comme on l'a dit, réfrigérées, tout ça. Et c'est aussi, effectivement, pour le portefeuille, c'est pas bon. Et puis pour la planète, ça l'est
Une
encore moins.
catastrophe. Alors, quelles sont les fleurs qu'on peut offrir à cette période de l'année? Est-ce que vous pouvez
Alors,
donner
c'est ça
des
la
idées à
bonne
nos
nouvelle.
auditeurs?
Mais
Mais
oui,
oui, il y en a!
c'est ça la bonne nouvelle, c'est que des fleurs de saison, il y en a partout en France, en toute saison, y compris au mois de février. Donc, en ce moment, pour la Saint-Valentin, nous, ce qu'on vous recommande, c'est d'offrir, d'aller chez votre fleuriste d'abord, votre fleuriste de proximité qui est un artisan, un commerçant, qui a un
Oui, c'est à
savoir-faire
n'aller pas en grande
particulier, qui connaît
surface,
bien.
aller chez un artisan déjà.
Voilà, allez chez un artisan, comme ça, vous contribuez à faire vivre les centres-villes, le petit commerce. C'est assez important. Donc ça, c'est le premier point. Et ensuite, demandez-lui qu'est-ce qu'il a en fleur de saison. Vous savez, en ce moment, il y a encore du mimosa. C'est la pleine saison du
Ouais.
mimosa. Vous avez les anémones, les renoncules, les tulipes, bref, les violettes, le camélia. Il y a énormément de fleurs de saison, des jacinthes, toutes les plantes à bulbes que vous pouvez offrir et qui, en plus, auront du parfum.
Mais qui sont d'origine France, qui
Ah, bien
viennent
sûr,
du
qui
sol
sont
français, et
produits.
ça on peut le demander d'ailleurs aux fleuristes.
Ah, mais je vous encourage à le faire d'ailleurs. J'encourage les auditeurs à le faire, à demander à leurs fleuristes de proximité qu'est-ce qu'ils ont en fleurs françaises et d'où viennent leurs fleurs. Et voilà, il y aura toujours forcément une ou deux variétés qui seront françaises.
Parce que Fleur d'ici, justement, cette entreprise que vous avez fondée, ne travaille qu'avec finalement des fleuristes qui valorisent le terroir, quoi, le local.
Absolument, nous on est une entreprise à mission, donc c'est un nouveau statut d'entreprise qui a été créé récemment où on s'engage en fait à prendre une mission d'intérêt général par le biais de l'entreprise. Et nous, notre mission, c'est à la fois le soutien à l'agriculture locale et au commerce de proximité. Pourquoi? Parce qu'en fait, nous, effectivement, quand vous commandez sur Fleur d'ici, sur le site, certes, c'est une plateforme digitale, donc une plateforme digitale en pas toujours bonne presse, mais chez nous, c'est une plateforme digitale vertueuse dans le sens où les fleurs que vous commanderez, la valeur, elle reviendra à un fleuriste qui va préparer la commande et qui va s'engager à la préparer à partir de fleurs locales.
Ouais. Vous avez le sentiment que les choses changent. Vous pouvez justement, vous avez des remontées du terrain. Est-ce que les Français sont vraiment de plus en plus sensibles à ça, réellement, dans
Ah
l'acte d'achat?
c'est très clair. Enfin, nous, on voit les Français se prononcent chaque année de plus en plus pour. Enfin, vous savez, il suffit de regarder dans la grande distribution, vous allez au supermarché, vous voyez les gens maintenant, ils retournent les paquets
C'est
pour
vrai.
savoir. Les choses, comment ça a été fait, la proportion, les glucides, tout ça. Le Nutri-Score a aussi fait beaucoup évoluer les choses pour la partie alimentaire, mais ça a poussé les gens à s'interroger sur qu'est-ce qu'il y a dans les produits qu'ils achètent,
Ouais.
à la fois sur un plan évidemment santé nutritionnelle pour l'alimentaire, mais pas que, aussi sur où est-ce que ça a été fait. L'indication de la provenance, justement, aujourd'hui, c'est une obligation et ça a fait beaucoup bouger les lignes.
Ben voilà, il faut remettre du bon sens dans le marché de la fleur. Merci beaucoup Hortense Aran. Donc à demain, c'est la Saint-Valentin. Privilégier les fleurs locales et de saison. C'est ça le mot, enfin comment dire, l'information à retenir, hein, Hortense.
L'information à retenir, c'est privilégier les fleurs locales et de saison et aidez-nous à faire transformer cette filière et allez signer la pétition sur
Oui,
change.org.
très bien. C'est effectivement change.org pour retrouver la pétition qui s'appelle comment?
Elle s'appelle Sauvons les fleurs locales, mais sinon vous pouvez aller sur le site Fleurs d'ici, Fleurs FLEURS d'ici, DICI, et vous trouverez la pétition. Il y a un bandeau sur le site, c'est plus simple comme ça, vous y accédez.
Merci beaucoup Hortense Aran et je vous souhaite un très bon dimanche et une bonne Saint-Valentin.
Merci beaucoup. Au
Au
revoir.
revoir. Merci beaucoup Hortense Aran, fondatrice de Fleur d'ici, le slow flower. Allez, on va se quitter quelques secondes et juste après, on évoquera une façon originale et gourmande de clamer son amour à son sa bien-aimée le jour de la Saint-Valentin. Allez, à tout de suite.
Le réseau des chambres de métiers et de l'artisanat, chaque jour aux côtés des artisans, présente.
Sud Radio, c'est ça la France, Nathalie Schrengerma.
Nous voilà de retour dans C'est ça la France pour notre spécial Saint-Valentin. Après avoir acheté un bouquet de fleurs locales et de saison, pourquoi pas offrir des biscuits aux petits messages enflammés.
Sud Radio C'est ça la France, Nathalie Schrengerma.
Et nous sommes en ligne avec Colline Delma Werner. Est-ce que je prononce bien, Colline, le nom de famille?
Oui, c'est parfait. Bonjour Nathalie, c'est exactement la bonne prononciation.
Alors, le French Biscuit. Parlez-nous un petit peu de cette belle entreprise, cette aventure biscuitée. Vous avez décidé de valoriser les petits beurres.
Exactement. Alors, on a créé le French Biscuit il y a 4 ans avec Alix, qui est une amie d'enfance. Et on a créé ce petit biscuit, le petit beurre, avec des messages écrits dessus, surtout pour se rappeler des biscuits qu'on mangeait quand on était petite avec Alix.
Une sorte de Madeleine de Proust.
Exactement. Alors, Madeleine de Proust, pour moi, c'est surtout associé au goût, ce qui n'était pas forcément le cas des biscuits qu'on mangeait petite, qui étaient très amusants parce qu'il y avait des messages différents sur les biscuits, mais ils n'étaient pas forcément très bons. Et donc, on a pris le parti de remettre au goût du jour ces biscuits avec des messages, mais avec des très bonnes matières premières pour justement avoir un bon biscuit qui soit très émotionnel par le message qui est écrit dessus et par le goût qu'il laisse en bouche. Voilà.
Et pourquoi les petits beurres plus que des madeleines ou autre chose?
Parce que pour écrire un message sur du biscuit, il faut vraiment un côté biscuit sec sur la madeleine, c'est difficile. Et c'est vrai que le côté du petit beurre rappelle vraiment des souvenirs d'enfance. Et l'idée, c'est vraiment de faire un biscuit qui allie l'émotion du message, l'émotion des papilles, l'émotion des souvenirs d'enfance. C'était l'idée, en tout cas, enfin c'est toujours l'idée qu'on veut véhiculer à travers nos biscuits.
Et au niveau de la recette, vous le disiez, hein, que des ingrédients simples de base, quoi, des bons produits.
Exactement, aucun conservateur, aucun additif. On travaille avec des matières premières en circuit court et en local quand on peut. Donc on travaille avec du beurre d'Isigny AOP. On travaille avec deux moulins qui sont situés, un à Versailles et un à une trentaine de kilomètres de chez nous, qui sourcent le blé de façon raisonnée, donc qui est sourcé à moins de 100 kilomètres des moulins. Et ensuite, on communique beaucoup sur nos fournisseurs de matières premières pour justement être très transparent sur ce que on met dans nos biscuits et pour garantir une qualité et une traçabilité et surtout un très bon goût de nos biscuits.
Et vous avez changé de vie, Colline, pour ces biscuits. Vous étiez avocate. Donc, et vous êtes reconvertie.
Exactement. Alors, exactement, voilà.
Il vous manquait tellement ces biscuits. Il y avait vraiment... Quel a été le déclic? Qu'est-ce qui s'est passé?
C'est-à-dire que je pense que j'étais pas très heureuse dans mon métier. Ouais. Enfin, je pense pas, c'est sûr. J'étais pas heureuse dans mon métier. Je me sentais pas du tout accomplie, épanouie. Et puis, en fait, moi, j'ai toujours rêvé d'avoir mon propre projet. Et j'ai plutôt un tempérament positif, optimiste et toujours à vouloir s'amuser. Et c'est vrai que le biscuit, c'était vraiment idéal parce que c'est un produit qui est extrêmement positif. Tous les jours, on a des commandes qui sont très jolies parce qu'il y a des annonces de grossesse, des annonces de mariage, que des jolies choses. Donc, disons qu'avec Alix, ça nous reflète beaucoup plus dans nos tempéraments et dans ce qu'on veut faire après. C'est des images très positives.
Mais tout est soigné, c'est même le packaging est soigné. C'est vraiment, on est dans du haut de gamme. Dans le petit beurre haut de gamme.
Effectivement, c'est bien plus qu'un biscuit. C'est vrai que le packaging est très joli parce que l'idée du packaging, c'est d'offrir une boîte que la personne découvre. C'est-à-dire quand on reçoit la boîte, on ne sait pas vraiment ce qu'il y a dedans. On voit juste qu'il y a un thème. On peut écrire un petit message sur la boîte qu'on peut personnaliser justement. Et puis, c'est vrai que quand on ouvre la boîte, c'est un peu le coffre au trésor où on découvre des petits biscuits avec des messages différents. C'est un peu inattendu. Et l'idée est vraiment, encore une fois, de véhiculer des émotions, d'aller de surprise en ouvrant la boîte de biscuits.
Alors, des messages rigolos, il y en a. Je vous le disais à l'instant, on peut personnaliser ces biscuits. Des messages pour la Saint-Valentin, vous en avez créé. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples de petits messages que l'on peut retrouver sur ces petits beurres à offrir à son amoureux ou son amoureuse?
Oui, tout à fait. Alors, on a deux boîtes pour la Saint-Valentin. On a une boîte pour les amoureux et on a une boîte pour les coquins. Donc, alors je ne sais pas si je peux dévoiler tous les messages qui sont pour les coquins. En tout cas, pour les amoureux, il y a des jolis messages comme vivre d'amour et de biscuits, se discuter sur les bancs publics, je t'aime d'amour. Voilà, donc c'est plutôt un thème romantique. Pour la boîte coquine, c'est un peu plus osé. Et d'ailleurs, elle marche très très bien.
Presque c'est mieux celle qui marche le mieux, ou là.
C'est dire quel est l'état d'esprit des Français, mais c'est très bien.
voilà. Ce qui est drôle, c'est que c'est ça, c'est qu'on peut aujourd'hui, si on veut être plus original, on a envie d'annoncer une demande en mariage, une naissance. Vos clients, ce sont des entreprises, des particuliers. Comment ça se passe? Les deux, j'imagine.
Exactement, on a les deux. Donc les particuliers qui passent beaucoup sur notre site internet et maintenant on est distribué dans un certain nombre d'épiceries fines. Donc on peut trouver nos boîtes qu'on appelle les pré-offrir. Ce sont des boîtes avec des thèmes différents et des biscuits qui sont en lien avec le thème de la boîte. Donc ça, cette boîte-là, on les retrouve sur notre site internet et dans pas mal d'épiceries fines. Et les entreprises, effectivement, qui entrent en contact directement avec nous parce qu'on propose des tarifs dégressifs quand on commande un certain nombre de volumes, où là, effectivement, ce qui est sympa, c'est que les entreprises sont très libres de personnaliser les biscuits avec leur logo, mais également leur packaging. Oui. Donc, on pousse la personnalisation jusqu'au bout, où on peut refaire même le visuel de certains formats de boîtes. On a des petites boîtes où on peut refaire tout le visuel.
Vous êtes très flexible à ce niveau-là.
Voilà, exactement. C'est l'avantage d'être une petite structure et même si on grossit un peu,
ça reste encore à taille humaine.
Exactement.
Vous êtes installé où exactement?
On est à Chaville, donc dans les Hauts-de-Seine, Versailles et Paris. Exactement. En fait, avec Alix, on s'est rencontrés à Versailles petite et on est revenus dans les environs. Maintenant que nous avons des enfants, la vie est plus facile dans ce coin-là.
Alors, French Biscuit a été créé il y a quoi? Il y a un ou deux ans? C'est récent?
Il y a 4 ans.
Il y a 4 ans, pardon.
Oui.
Alors, quel bilan vous dressez au bout de 4 ans? En tant qu'entrepreneur, Colline.
Bilan hyper positif. Alors, c'est vrai que c'est beaucoup de travail, mais c'est ce qu'on se dit chaque jour avec Alix, c'est qu'on n'a pas du tout l'impression de travailler. Même si on travaille plus qu'avant, on n'a pas cette sensation de lourdeur du travail. Mmh. On s'amuse tous les jours. Et ce qui est très positif, c'est que le French Biscuit a un accueil très favorable de nos clients et on grossit d'année en année. L'année du Covid a été compliquée, mais je crois que ça l'a été pour tout le monde. Et on a une bonne reprise, on a eu une bonne reprise l'année dernière, et là le début d'année commence bien, donc on est très contente, hyper excitée, on est toujours excitée par cette aventure. En fait.
Et alors je le dis à nos auditeurs, c'est biscuits sucrés ou biscuits salés, hein, parce que quand on parle de petit beurre, attention, hein, la palette est large, quoi. Vous avez vraiment innové dans les propositions gustatives.
Exactement. Alors, sur les biscuits salés, en revanche, on n'a pas de message écrit dessus. On a travaillé pendant 2 ans sur ces recettes pour essayer de faire tenir le message, mais le biscuit se rétracte beaucoup trop à la cuisson.
Ah.
Mais on faisait quand même goûter à nos clients, parce qu'on ouvrait un petit magasin devant nos cuisines à Chaville, et nos clients nous disaient, mais c'est tellement bon, on s'en fiche du message. Sortez quand même cette gamme, et on a sorti cette gamme de biscuits salés sans message, et en réalité, ça marche très bien. Donc, c'est vraiment, finalement, on est plus une biscuiterie que de la personnalisation de biscuits aujourd'hui, parce que les gens achètent nos biscuits pour les offrir, mais surtout pour eux, pour la qualité et le goût des biscuits.
Eh bien, longue vie à French Biscuit, et on vous souhaite un bon week-end, et lundi, une bonne Saint-Valentin.
Et une très bonne Saint-Valentin à vous et à tout le monde. Et gourmande Saint-Valentin.
Et gourmande, avec des beaux petits messages rigolos ou bien un peu plus sexy, on l'a bien compris.
Un peu plus sexy, voilà, exactement.
Merci beaucoup Colline, très belle journée
à
vous.
Merci Nathalie, merci, bonne journée vous aussi, au revoir.
Au revoir. Allez, il est temps d'aller se balader avec Thibaut, notre French Trotter.
Le comité régional de tourisme Provence-Alpes-Côte d'Azur vous présente
Sud Radio Cesse à la France, avec Thibaut le French Trotter.
Bonjour Thibaut.
Bonjour Nathalie.
Alors on vous retrouve une nouvelle fois, attention, après un petit voyage dans le sud. Vous allez nous présenter une entreprise qui vous a saisi.
Exactement, on va parler d'une belle manufacture située à Séance dans le Haut-Var. Elle s'appelle l'Atelier du Savon et elle fabrique de manière artisanale et naturelle des savons, bien sûr, avec toute une gamme de senteurs, mais aussi des produits cosmétiques ou des bougies parfumées. Au passage, ça peut donner des idées de cadeaux
pour la Saint-Valentin.
Je dis ça, je dis rien. Alors, tous ces produits sont commercialisés sous la marque Maître Savonito, et on est justement au téléphone avec Frédéric Brunel-Aquaviva, l'un des co-dirigeants. Bonjour Frédéric.
Bonjour Thibault, le French Trotter.
Bonjour Frédéric.
Bonjour, comment allez-vous?
Ça va très bien. Alors pour les auditeurs, est-ce que vous pouvez nous raconter en quelques mots l'histoire de l'entreprise?
Alors oui, bien sûr. Donc cette entreprise-là a été créée il y a 25 ans, mais au-delà de ça, la belle histoire, c'est qu'il faut remonter le temps début 20e siècle, l'âge d'or des savonneries. Il y avait une entreprise à Calas, donc très proche du canton de Fayence, avec un essor phénoménal. Puis est venue l'ère de l'industrialisation, des produits chimiques, des compromis sur la qualité au profit de la rentabilité. Et malheureusement, cette entreprise, cette savonnerie à Calas a disparu. Et il y a 25 ans, un monsieur qui s'appelle Christophe Savonito, alors ça s'invente pas, décide de recréer une savonnerie à la colle sur loup, qu'il revend à un couple qui s'appelle les Bessonnes, qui se réinstalle dans le village de Calas, dans un petit atelier, et retravaille ce savoir-faire de cette savonnerie qui pouvait exister dans l'histoire, en privilégiant les circuits courts, la traçabilité des ingrédients naturels, la qualité, et au fur et à mesure se sont développés. Et moi, j'ai racheté cette entreprise avec mon épouse en été 2021. On a tous les deux un parcours issu du luxe et notamment à l'international.
Donc rien à voir avec le savon, avec la savonnerie.
Alors, rien à voir avec le produit, le savon, mais néanmoins les bonnes pratiques de gestion, de développement commercial et de marketing restent les mêmes par rapport à notre parcours, puisque nous on était plutôt issus du secteur de la joaillerie, horlogerie, accessoires de mode. Donc on a eu quelques années d'expatriation à Hong Kong, Dubaï et New York. Et quand on est rentré en France, j'ai rejoint un fonds d'investissement spécialisé dans le rachat d'entreprises du patrimoine vivant et dans lequel j'étais actionnaire minoritaire et j'ai passé 5 ans et ça m'a vraiment donné goût à réindustrialiser donc la France via des TPE et des PME sur un secteur reconnu pour son savoir-faire et privilégier une région.
Et donc vous aviez tous les outils pour relancer cette entreprise.
Tout à fait. Donc, on s'est fait accompagner d'un cabinet qui nous a accompagnés pour identifier l'entreprise idéale, la belle entreprise, d'où l'atelier du savon.
Écoutez, ça me donne vraiment envie de venir. Pour résumer, si on veut venir, tout est indiqué sur le site, c'est ça?
Alors, tout est indiqué sur le site. L'entreprise et les ateliers sont ouverts du lundi au vendredi, de 8h à midi, de 13h à 16h. Donc, c'est préférable de pouvoir effectuer un rendez-vous pendant les heures d'activité.
Mais c'est bien, ça permet de découvrir l'envers du décor et tous ces corps de métier pour fabriquer un savon. Merci beaucoup, Thibault. C'était une belle idée de visite. Merci Frédéric.
Merci Frédéric.
Vous nous avez donné envie d'aller visiter l'atelier du savon.
Exactement.
Au revoir.
Très vite. Au revoir.
Sud Radio, c'est ça la France, avec Thibault le French Trotter.
Vous a été présenté par le comité régional de tourisme Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Bon Thibault, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle visite en immersion, là encore?
Bah oui, en immersion.
nous donner des idées de visite en immersion. Merci à vous, chers auditeurs, on arrive déjà à la fin de cette émission. Je vous souhaite à tous un très très bon dimanche et pour ceux qui fêtent la Saint-Valentin lundi, une très bonne Saint-Valentin. Allez, on se donne rendez-vous la semaine prochaine et d'ici là, surtout, portez-vous bien.
Le réseau des chambres de métiers et de l'artisanat, chaque jour aux côtés des artisans, vous a présenté
Sud Radio, c'est ça la France.